Alors, est-ce que pour commencer, je te propose, est-ce que tu peux nous dire un petit mot donc sur Chemical Sweet Kid et ensuite nous préciser également un peu ton parcours artistique jusqu'au groupe?
Bien sûr, bah écoute, voilà, Chemical Sweet Kid, c'est un groupe qui existe maintenant depuis 2008. On a commencé, enfin, j'ai commencé seul les concerts en tant que projet solo, hein, comme on peut dire. On a beaucoup évolué depuis 2008, où maintenant on est un petit peu plus dans la veine indus metal, avec donc qui se sont joints à moi, Yann à la guitare et Gauthier au clavier. Comme je disais, c'est vrai qu'en 12 ans, bah, le groupe a eu le temps de parcourir son chemin et d'évoluer. Donc on est passé de composition de morceaux très électro avec des influences qui étaient plus comme Tantrum, Suicide Commando, voilà, des groupes très gothiques, électro-gothiques, à maintenant des sonorités qui se rapprochent un petit peu plus de ce qu'on peut entendre dans le métal, comme l'aspect gothique de Marilyn Manson, métal de Rob Zombie ou encore Combi Chris pour l'industriel.
D'accord. Et voilà, quel était un peu temps. Donc toi, tu t'occupes de, donc tu composes tout, plus
Ouais.
chant et programmation. Voilà, quel était un peu ton parcours musical jusqu'à l'aventure Chemical?
Bah écoute, moi, avant, j'avais commencé, donc j'ai jamais vraiment fait de musique dans le sens où je jouais pas de guitare, d'un instrument ou de solfège. Bah, j'ai toujours été fan de musique, hein. Mon adolescence a été bercée dans le rock et dans le métal, et je me suis dirigé ensuite vers la techno hardcore, donc c'est qui est un petit peu l'opposé. Et c'est vrai qu'une fois que je suis arrivé dans ce milieu techno, j'ai commencé à vouloir faire de la musique, donc d'abord en tant que DJ, où je me suis acheté des platines, vinyles, etc., où je mixais beaucoup en soirée, en club, en rave et tout ça. Puis voilà, les DJ avec qui je mixais commençaient eux à composer aussi. C'était le moment où on pouvait commencer à composer sur ordinateur assez facilement. Donc voilà, je me suis mis à composer sur ordinateur, plus de la musique techno, hardcore. Donc je t'avoue, ça a jamais vraiment donné quelque chose de très bien. Et j'ai découvert ensuite un groupe qui s'appelle Tantrum. Et voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là qui a été vraiment un moment clé où je me suis détourné un petit peu de l'aspect techno pour rejoindre la mouvance un petit peu électro-gothique pour fonder le groupe Chemical Sweet Kid.
D'accord. Est-ce que tu as des... Bon, tu as cité les groupes qui t'ont beaucoup influencé. Est-ce que tu as des artistes en particulier qui restent des références pour toi?
Bah, comme je disais, c'est vrai que Tantrum, Suicide Commando, c'est des groupes qui m'ont beaucoup marqué au
D'accord.
début du groupe. Donc c'est des groupes que j'écoute plus voilà, plus forcément maintenant, mais tout au long des albums, on est bercé par plusieurs influences. Donc c'est que il y a des albums où j'écoutais beaucoup de Marilyn Manson par exemple, où ça peut se ressentir. Puis il y a des artistes qui me marquent beaucoup comme Rob Zombie par exemple, d'une part musicalement, mais c'est que pour l'ayant vu déjà plusieurs fois en concert, bah, il y a quand même un show qui est assez marquant. Donc c'est que si je devais en retenir que un, je dirais que ce serait Rob Zombie, parce qu'il a vraiment tout un univers dans sa musique et un univers scénique qui l'accompagne et qui est assez impressionnant.
D'accord. Donc, si on revient un peu juste à l'album précédent, qui est donc Addicted to Addiction, en
C'est
2017.
ça.
Si on reprend cette période-là, quel souvenir ou quel point clé tu retiendrais de toute cette période, de la période de cet album-là?
Bah, c'est que c'était une bonne période. On a eu vraiment, c'est la période où on a commencé à avoir de plus en plus de dates, notamment en Allemagne, et à jouer vraiment devant de plus en plus de monde. Donc la vraie différence avec cet album par rapport au précédent, c'est que voilà, on a vraiment mis de la guitare dessus. Les albums précédents, on avait eu un guitariste studio pour le troisième album qui était The Speed of Time. Et pour cet album, Addicted to Addiction, c'est vraiment notre guitariste. On avait vraiment trouvé un guitariste live qui nous a fait la guitare sur cet album. C'est que c'est un album qu'on a beaucoup joué en Allemagne. On a beaucoup tourné sur cet album, donc ça reste quand même un bon souvenir. Et vraiment à un moment clé pour le groupe où voilà, on a commencé à plus s'affirmer sur le côté rock et métal.
D'accord. En général, quel est ton, comme t'es le principal compositeur, quel est ton processus de création? Comment on est un titre chez Chemical Sweet Kid?
Bah écoute, c'est assez simple en fait, hein. Moi, j'allume l'ordinateur, je commence à faire. Enfin, il y a pas vraiment de règles, hein, mais voilà. Ces derniers temps, hein, comme on était en confinement, j'ai eu le temps de faire pas mal de musique ces 2 derniers mois. Donc c'est En général, j'ouvre l'ordinateur le matin, puis le soir, le morceau est fait, quoi. On a cette facilité avec l'ordinateur, une fois qu'on maîtrise un peu le logiciel, qu'on sait comment utiliser ses synthés ou ses plugins, on sait où aller chercher le son qu'on veut. Ça peut aller assez, assez vite. On sait que la plupart du temps, ah, le morceau peut être fait en une ou deux journées. Enfin, quand je dis le morceau, c'est vraiment la structure principale sur laquelle on va ajouter de la guitare et de la voix après. Mais voilà, moi je fonctionne comme ça. Je préfère bosser 8 heures d'affilée pour faire quelque chose que de faire 2 heures par jour et puis perdre un petit peu le fil après.
Mais souvent tu parles quoi, d'une mélodie, d'une boucle rythmique, c'est quoi l'étincelle?
Il n'y a pas vraiment de règle, hein. Disons que soit des fois je m'amuse juste sur un synthé à faire une mélodie que finalement je garde pas après ou que j'ai modifié, ou alors que ma mélodie est devenue que j'ai transformé en ligne de basse. Mais il n'y a pas vraiment de règle, hein. Soit j'ai déjà quelque chose en tête que je vais composer direct, soit je vais m'amuser un petit peu à droite à gauche avec des plugins ou des synthés que j'ai, et ça va donner naissance, ça va se construire autour de ça. Mais il n'y a pas vraiment de règle. Donc je vais pas faire à chaque fois une ligne de basse, une mélodie, une rythmique. Ça peut commencer par une rythmique, comme ça peut commencer par une ligne de basse ou par des sons indus que j'aurais bricolé.
D'accord. Mais donc comme tu avais l'air de le sous-entendre, donc t'as une base très relativement électro, qu'ensuite tu métallises par les guitares et ensuite tu finis par les chants.
C'est ça, voilà. Donc en fait, dans l'ordre des choses que je fais, c'est que je compose le morceau, ensuite j'enregistre la voix, ensuite j'envoie tout ça à notre guitariste qui lui rajoute la guitare, pour vraiment finir le morceau. Donc c'est vraiment d'abord l'instru, la voix. Et ensuite, on pose la guitare dessus. Maintenant, voilà, c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à maintenant. C'est pas dit qu'on fonctionne différemment par la suite, étant donné qu'on vient de changer de guitariste aussi.
D'accord. Mais donc, tu lui envoies des guitares témoins ou?
Non, c'est vraiment lui qui, je lui laisse champ libre, en fait. Moi, je lui envoie le morceau tel qu'il est. Soit il va suivre la ligne de basse ou la mélodie que moi j'ai fait. Soit il va essayer de compléter ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il va plutôt suivre ce que moi j'ai déjà fait. Et ensuite, moi, quand je vais recevoir ces pistes de guitare, c'est que c'est difficile d'avoir des synthés plus des guitares. Il faut vraiment que tout soit séparé pour qu'on puisse bien tout distinguer quand on écoute le morceau. Donc, c'est vrai que ça arrive aussi souvent que j'enlève les synthés par la suite. D'accord. Les synthés qui lui ont servi de base, en fait, pour ajouter la guitare.
Ok. En général, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les sessions d'enregistrement de Fear Never Dies? Et surtout, est-ce que vous avez modifié votre façon de travailler en profondeur par rapport à Addicted to Addiction?
Ouais, mais et la principale différence, en fait, qu'il y a eu, c'est l'enregistrement des guitares. En fait, donc, notre guitariste m'avait envoyé ses pistes de guitare. Mais moi, je voulais quand même que ça sonne, que cet album sonne un petit peu différemment de Addicted to Addiction, parce que voilà, j'estime qu'il, pour pas lasser le public non plus, il faut quand même qu'il y ait une évolution d'un album à un autre. Et du coup, voilà, on a été enregistrer les guitares dans un studio à Hambourg, qui est le studio de Chris Arns du groupe Lord of the Lost. Je sais pas si ça te parle. C'est un groupe qui tourne beaucoup en Allemagne, qui a beaucoup de succès, notamment en Allemagne. Et donc voilà, c'est ça, c'est vraiment la principale différence qu'il y a eu dans la création de cet album par rapport à l'album précédent. C'est vraiment les guitares. Donc Chris n'est pas contenté de juste enregistrer les guitares. C'est qu'il y a eu aussi tout un travail où il nous a aussi conseillé sur certaines parties. Sur ces conseils, on a aussi ajouté d'autres parties de guitare ou modifié des parties qui n'étaient pas prévues comme ça au départ. Donc c'était un travail très enrichissant d'aller enregistrer la guitare avec lui.
D'accord. Donc tout ça s'est fait par fichier ou tu t'es déplacé sur en Hambourg?
On a été à Hambourg. On a enregistré l'album était fini, hein, donc on a enregistré les guitares en un jour et demi, deux jours. À Hambourg directement en studio.
Et dans la foulée, il a fait le mastering?
Non, alors du coup, voilà, lui, il m'a renvoyé les pistes de guitare qu'il a éditées par la suite. Mm-hmm. J'ai pris le temps de les intégrer au morceau, de faire le mix. Enfin, c'est qu'habituellement, c'est moi qui m'occupe du mastering aussi, mais bon, là, c'est vrai que j'ai manqué un petit peu de temps pour des raisons personnelles, donc j'ai préféré déléguer cette partie. Et voilà, vu que lui faisait également du mastering. Donc nous, on avait été enregistrer les guitares en novembre 2018, si je me trompe pas, et il a fait le mastering en, je sais plus, c'était peut-être en janvier, février ou mars 2019. Février 2019, il nous a fait le mastering, ouais.
D'accord. Un petit mot sur l'apparition en guest de Marcus Engel de Rabia Sorda.
Ouais, bah écoute, donc Marcus Engel, c'est le guitariste du groupe Rabia Sorda qui est le side project de Erk, qui est aussi compositeur du groupe Ossico, qui est aussi très connu en Allemagne. Donc Rabia Sorda, voilà, c'est un groupe avec qui on a pas mal tourné en 2017-2018 pour l'album Addicted to Addiction. C'est vrai qu'on s'est toujours bien entendu avec Marcus, Erk et Michael de Rabia Sorda. On a même fait un remix pour Rabia Sorda, donc un remix qui est sur son dernier album qui est sorti en 2018, si je me trompe pas. Et lors d'un festival à Berlin où Rabia Sorda jouait, on a discuté un petit peu avec Marcus et j'ai lancé comme ça, je lui ai proposé de faire un featuring sur un des morceaux d'un prochain album. Lui, il était OK. Donc quelques mois plus tard, je lui ai envoyé quelques morceaux pour qu'il puisse choisir celui qui lui convenait mieux. Donc c'est vraiment tout naturellement que ça s'est fait vu qu'on se connaissait déjà depuis quelques temps.
D'accord. J'ai le sentiment que beaucoup de collaborations, on parlera après pour les remixes ou donc avec Ossico, c'est lié donc à des rencontres lors de précédentes tournées.
C'est ça, c'est vraiment toutes les collaborations que j'ai fait sur cet album, ou les collaborations en général, ça part toujours de relations humaines au départ.
D'accord. Donc finalement sur le disque il y a 14 titres plus de remix.
C'est ça.
14 titres enregistrés finalisés sur combien préparés entre guillemets.
Bah, sur 14. Voilà, en fait, en gros, moi, quand je fais un morceau, j'aime pas forcément le jeter à la poubelle. S'il me plaît pas, je vais essayer de le retravailler quand même jusqu'au moment où à ce qui me convienne. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très rare que je jette un morceau. Je pense par exemple au morceau Lights Out, qui est un morceau qui m'a donné un petit peu plus de fil à retordre que les autres. J'étais parti sur un morceau un petit peu en ternaire que j'avais remodifié, etc. Puis là, ça collait pas, j'arrivais pas vraiment à faire fonctionner le morceau, jusqu'au moment où j'arrive à trouver finalement un arpège qui fonctionne bien. Puis j'ai refait en fait tout le morceau autour de cet arpège. Donc voilà, j'ai pas jeté le morceau, mais j'ai quand même retravaillé jusqu'au bout.
D'accord. Est-ce que tu saurais me dire par hasard quel titre t'as finalisé en premier?
Alors, ça c'est, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que le premier morceau qui a été fait pour cet album, si je me trompe pas, c'était Dance with the Shadows. C'était soit
D'accord.
celui-là, soit Push Your Limits, je sais plus. C'était en tout cas, c'était ceux-là les deux premiers. Ça,
Ok.
j'en suis sûr.
Avec ton expérience là maintenant, avec pas mal d'albums et d'EP sous le bras, est-ce que les premiers titres que tu finalises impactent ou colorent d'une façon ou d'une autre le reste de l'album?
Bah, pas forcément, tu vois, je dirais, c'est peut-être même le contraire. Plus j'évolue dans la composition de l'album, plus je vais essayer de différencier les choses. Donc c'est pas forcément le premier qui donne la ligne directrice du reste, mais je dirais au contraire, bizarrement, c'est le dernier morceau de l'album précédent qui donne la ligne directrice du prochain album, en fait. Je sais pas
D'accord.
si je suis clair.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Autre élément un peu sur la cuisine interne quand on sort un album, sur quels critères tu te bases pour faire le track order sur un album?
Ah, c'est vrai que c'est toujours un moment un peu délicat parce que bon, une fois qu'on a les morceaux, il faut pas qu'on assemble les morceaux et que ça devienne quelque chose de trop répétitif. Donc c'est que le choix du premier morceau déjà de l'album, c'est voilà, il faut que ça percute tout de suite. C'est pour ça des fois on se demande est-ce qu'on doit mettre une intro ou pas à l'album ou est-ce qu'il faut rentrer directement dans le vif du sujet. Et après j'essaye d'agencer les morceaux. J'essaye, tu vois, dans mon logiciel Cubase, de mettre les morceaux les uns au bout des autres, les agencer comme ça, d'écouter la fin de l'un et le début de l'autre, voir si l'enchaînement se passe bien. Et une fois que j'arrive à quelque chose qui me convient à peu près, j'envoie la setlist à plusieurs personnes qui peuvent me donner leur avis. Moi-même, je l'écoute en voiture pour voir si rien me choque, si je m'ennuie pas trop en écoutant l'album, parce que c'est vrai que le but de faire une setlist comme ça, c'est vraiment de pouvoir faire voyager les gens. Surtout que voilà, moi j'essaye quand même en faisant mes morceaux, en faisant ma setlist, d'avoir des morceaux qui se ressemblent pas trop et qui sont pas forcément dans la même ambiance. Je veux dire, on a des morceaux qui sont assez lourds et pesants, d'autres morceaux qui sont rapides et dansants, d'autres morceaux qui sont un petit peu, tu vois, il y a le morceau Sick of You qui est un petit peu plus comme une balade, comme une comptine un petit peu inquiétante. Donc voilà, tout ça, j'essaye de, voilà, de diversifier aussi les morceaux tout au long de l'album pour que les gens, voilà, ne soient pas lassés. C'est qu'il y a des albums de certains groupes où on a toujours le même tempo, où ça bourrine tout le temps. Voilà, on peut prendre les morceaux un par un, ils sont tous bien, mais mis à la chaîne, ça devient un petit peu fatigant à écouter. C'est quelque chose que j'essaye en tout cas d'éviter.
D'accord. Un autre élément important pour un album, en tout cas sur le, entre guillemets, pour attirer le chaland, c'est la pochette. Donc là, d'après ce que j'ai vu, vous avez travaillé avec Cybercore 23 Art.
C'est ça, en fait.
Comment vous avez travaillé avec eux et surtout quel était ton cahier des charges?
Bah écoute, j'avais pas vraiment de cahier des charges parce que je partais sur sur l'album. Autant les albums précédents, j'avais toujours une idée bien précise de ce que je voulais en tant que pochette. Autant sur celui-là, bah, pour une raison inconnue, hein, c'était un petit peu plus flou dans ma tête. Donc je suis tombé sur son travail par hasard sur je sais plus si c'est sur Facebook ou autre. J'ai navigué un petit peu sur son portfolio, puis c'est vrai que tout ce qu'il a fait m'inspirait quand même beaucoup des affiches de films d'horreur. J'ai trouvé son travail vraiment vraiment bien. Je pensais qu'il pouvait vraiment bien illustrer l'album. Il y avait cette photo donc qui est pas la pochette de l'album mais qui a servi de base sur la pochette de l'album, parce que tu sais, ils mettent souvent des graphismes, voilà, ce design est libre, celui-là n'est pas libre, etc. Celui-là, visiblement, il l'avait déjà vendu, donc il était plus disponible. Donc, il m'a fait 4 autres designs, et ensuite, il m'a informé que finalement, la personne ne prenait pas celui-là. Donc, je suis revenu sur ce design qu'on a retravaillé pour donner la pochette qui est sortie, qui, je trouve, illustre bien les propos de l'album, en tout cas.
Alors, ok. Alors, deux éléments complémentaires. Un, quand même, 90% du temps, le titre de l'album, c'est un titre d'une chanson, ce qui n'est pas le cas ici.
Ouais, bon, je l'avais déjà fait pour le premier album Tears of Pain. On a un morceau qui s'appelle Tears of Blood. Le deuxième album Broken Wings, on a un morceau qui s'appelle Broken Wings. Le troisième The Speed of Time, c'est autre chose. On a pas de morceau du même titre. Addicted to Addiction, on a un morceau qui s'appelle Addicted to Addiction. Là, j'y ai pensé, mais finalement, j'ai trouvé le titre de l'album une fois que tous les morceaux étaient faits. Donc c'est vrai qu'en prenant un peu de recul. Fear Never Dies, c'est pas le titre d'un morceau, mais par contre, ça vient des paroles du morceau Lost Paradise. Donc je trouvais ça illustrait bien l'album.
Et effectivement, et donc l'ambiance générale est assez sombre. Comme tu le disais, dans l'évolution du style du groupe, très différent de vos premières pochettes, ce qui était très 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 beaucoup plus gothique, fond blanc, ouais, etc. Le côté sombre s'est imposé. Directement, enfin.
C'est venu depuis le début, c'est venu tout naturellement. C'est vrai que comme c'est moi qui compose seul les morceaux, donc c'est moi qui ai mis mes propres influences. Moi, j'ai toujours été attiré, quel que soit le style de musique que j'ai écouté, j'ai toujours été attiré par l'aspect sombre de cette musique. Je prends par exemple, voilà, je suis pas un grand fan de rap ou de hip-hop, mais de ce que j'écoute en rap ou en hip-hop, on peut citer Cypress Hill. Ouais, qui est quand même un groupe aussi assez sombre. Quand je faisais de la techno hardcore, c'était aussi je me dirigeais aussi plus vers les sons très lents et sombres et angoissants. Et du coup, quand j'ai commencé à composer de la musique, forcément, j'étais tellement habitué à écouter ce genre de musique que tout ça est ressorti.
D'accord. En plus de la pochette, autre élément important pour la promo de l'album, c'est les clips vidéo. Donc vous avez sorti plusieurs clips paroles, lyrics, et puis vous avez sorti Playing with Knives, donc en général, qui est un clip donc beaucoup, enfin tourné, scénarisé, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la réalisation de ce clip, à part les heures passées en maquillage?
Bah écoute, c'est vrai que pour moi, faire un clip, c'est toujours un peu, je trouve que c'est toujours très compliqué, la discussion avec les réalisateurs, trouver les lieux, etc., etc. Donc là, j'ai vraiment, j'ai donné quelques petites idées, j'ai laissé le réalisateur un petit peu digérer tout ça puis ressortir quelque chose. Ce qu'ils en ont fait, ça m'a plu. J'ai trouvé ça, leurs idées, j'ai vraiment accroché. eux se sont occupés de trouver le lieu. En fait, c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver un lieu pour un clip, mais ils ont un copain qui a racheté un grand bunker dans lequel il a transformé tout ça en paintball. Du coup, voilà, on a tourné tout ça dans un bunker. Donc, il y avait la forêt juste à côté du bunker. Ce qui ressemble à un hôpital psychiatrique, c'est en fait une pièce du bunker. Voilà, donc, tout ça a été tourné dans la foulée, en une journée.
D'accord. Okay. Et il y a d'autres projets de ce type-là dans les tuyaux? Après le confinement et autres?
Ouais, c'est vrai que on a une tournée qui devait commencer en février. Donc, on avait pensé à faire un clip qui devait sortir avant le mois de février. Cette tournée a été décalée en mai. Donc, on s'est dit, voilà, on a un petit peu plus de temps pour discuter et peaufiner le truc. Mais voilà, du coup, en mars, on s'est retrouvés tous confinés. Donc, le projet est en suspens pour l'instant. On verra ce qu'il en est. Par la suite, ce qu'on peut techniquement faire. Parce que c'est vrai qu'après sortir un clip trop tard, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je sais pas. Donc pour l'instant, voilà, il y a quelque chose qui était dans les tuyaux, mais qui a été mis entre parenthèses pour l'instant.
D'accord. Comme tu le disais, donc maintenant en plus de 10 ans, presque 12 ans d'existence, vous avez pas mal tourné, surtout ces dernières années. Donc vous avez tourné avec des groupes quand même assez majeurs de la scène, Young Gods, Osiko, tu l'as mentionné. Ouais. Project P-Fork bientôt. Au contact de ces groupes très expérimentés et certains qui sont donc des références dans leur domaine, vous hein, qui est un groupe un peu plus jeune ou avec peut-être moins d'expérience scénique, on apprend à leur contact.
Oui, alors c'est sûr qu'on peut même apprendre avec un groupe qui est très jeune, parce que il y a certains groupes très jeunes qui sont très débrouillards, hein, ne serait-ce que par exemple, on va dire pour chacun a ses petits trucs, hein, de toute manière. Après, c'est sûr qu'on apprend toujours avec des gens plus expérimentés. J'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais c'est vrai qu'on était parti, par exemple, en tournée avec un groupe qui s'appelle Aesthetic Perfection, où là, c'était vraiment la tournée où on avait les dates, des dates tous les jours. Et c'est vrai que c'est, voilà, là, on apprend beaucoup en côtoyant, en vivant vraiment une semaine ou deux avec ce genre de groupe.
Mais par exemple, si je prends un exemple, j'ai vu que vous avez à un moment partagé une ou des, je sais pas si c'est plusieurs dates avec une des références que tu mentionnais qui était norvégien de Combi Christ. Quand on assiste peut-être depuis les coulisses à leur travail, leur préparation, leur mise en place, etc., c'est formateur ou pas spécialement?
Bah, tu sais que nous on a joué avec Combi Christ là il y a pas longtemps, au mois de juillet. Bon, on se connaissait déjà d'avant, on a déjà fait quelques soirées ensemble. Mais après, c'est que on se rend compte qu'on fonctionne tous pareil finalement. Voilà, on fait tous les balances comme ça, on fait tous le maquillage comme ça. Donc voilà, finalement, on apprend oui et non, parce que faut savoir aussi que quand t'es avec des grands groupes comme ça, bah, ils sont dans leur loge, puis eux ils sont en tournée nous on les a rejoints sur une tournée, on a fait une date avec eux, mais eux ils en avaient le lendemain, ils en avaient la veille, donc ils ont aussi envie d'être tranquilles de leur côté. Maintenant voilà, comme je te disais, on se rend compte finalement que on travaille tous de la même manière finalement, mais c'est vrai que si on arrive à discuter avec un groupe ou l'autre, chacun a son petit truc. Voilà. Pour certaines choses, il y a des gens qui vont avoir une petite astuce de maquillage, d'autres une petite astuce de branchement, donc on apprend toujours dans le sens là, en tout cas. On va pas beaucoup apprendre d'un groupe, mais on va apprendre un petit peu de chacun.
D'accord. On l'a un peu abordé précédemment. Donc là, sur l'album, il y a deux remixes qui apparaissent, un d'Ago Noise et l'autre de Nartmar. Pourquoi eux en quoi ce type d'exercice a un intérêt pour toi au niveau, qui est principal compositeur?
Pourquoi ces groupes, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout une histoire de relations humaines, hein, comme on a vu avec Marcus. Donc Ago Noise et Nartmar, c'est deux groupes que je connais. On se connaît personnellement, on a déjà travaillé ensemble, on a déjà joué ensemble. Ago Noise, par exemple, je connais Chris depuis 2014. Et ça fait depuis 2014 qu'on parlait de travailler un peu ensemble, soit un guest vocal, des remixes ou faire un morceau ensemble. On était plus parti d'ailleurs sur l'idée de faire un morceau ensemble, mais au final voilà, il a eu un petit peu de temps pour faire un remix, donc on est parti sur le remix. Et pour Nartmar, pareil, c'est quelqu'un que je connais qui m'avait déjà demandé il y a quelques années de faire une cover pour un de ses morceaux qu'il avait intégré à un album spécial cover. Et on s'est vu là l'année dernière au mois de juillet à un festival où on a passé une soirée ensemble. On a reparlé de la cover et du coup bah lui là il m'a dit texto que maintenant voilà c'était à lui de me renvoyer l'appareil et qu'il voulait il a proposé de faire un remix. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai pris ces deux groupes. Mmh. Je trouvais ça aussi intéressant parce que c'est deux groupes qui font vraiment de l'électro pur, électro-gothique pur, et reprendre un morceau avec de la guitare et une voix un peu plus chantée que ce que eux ils ont. Voilà, j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner.
D'accord, mais et donc quand toi tu fais l'exercice, puisque comme tu le mentionnais, tu en as fait pour d'autres groupes, est-ce que d'une mmh. façon ou d'une autre, ou la façon dont ils interprètent certains de tes titres, ça nourrit ta créativité?
Disons que c'est vrai que comme moi je fais un remix, c'est toujours un bon exercice de voir les fichiers parce que, des autres personnes, puis de travailler sur une base qui est pas la mienne. C'est toujours un bon exercice d'ajouter des sons à quelque chose qui est existant ou de remodeler les choses un petit peu à sa façon. Et dans le sens inverse, quand quelqu'un me remixe, c'est vrai qu'on est toujours curieux de voir le résultat, voir comment la personne voit le morceau, alors que nous on l'a déjà composé de cette façon. Après, je dirais pas que ça nourrit ou que ça influence la façon de faire les choses par la suite, parce que chacun reste quand même un petit peu cantonné dans sa manière de faire.
D'accord. Donc juste pour terminer, dans le temps qui nous reste, donc finalement, donc vous aviez effectivement plein de projets. On l'a dit, une première tournée avec Projet Pitchwork qui a été reportée, puis qui va reprendre un coup puisque mai c'est mal barré. C'est même transféré vers 2021. Vous avez déjà annoncé les dates. Et donc sur cette période de confinement, vous avez quand même voulu avoir un contact avec les fans. Vous avez fait un concert. Vous avez proposé un concert en ligne. Et puis ensuite, ouais, toi t'as fait récemment un petit set DJ.
C'est ça, en fait, comme je disais, nous on a changé de guitariste très récemment, donc son premier concert devait être le 14 mars, quand on devait jouer en Suisse. Donc Yann, lui, il habite à Berlin, donc il est venu quelques jours avant pour qu'on puisse fignoler puis répéter ensemble. Mais seulement le jour où il est arrivé, c'est le jour aussi où l'organisateur nous a dit qu'il fermait les frontières en Suisse et que le concert était reporté. Donc du coup, on avait Yann qui était de Berlin, qui était là, Gauthier qui est de Paris, qui était là aussi. Ah, donc du coup on était tous les trois, donc on a eu l'idée justement de faire ce concert Facebook Live avant même que le confinement soit effectif en France, puisque le concert on l'a fait le 14 mars et ils ont annoncé le confinement en France le 17. Mmh. Et du coup c'était un peu le même principe pour le DJ set. Moi ça faisait déjà une dizaine d'années que j'avais pas mixé. On m'avait booké une soirée en avril pour faire un DJ set. Du coup, étant donné que j'avais déjà préparé quelque chose et puis que j'avais rebranché mes platines, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, puisque après, refaire un live et refaire un live tout seul, ça n'avait pas vraiment d'intérêt, à mon sens.
D'accord. Et donc, pour deux questions en un pour terminer. La première, c'est qu'est-ce qui est donc prévu dans les temps qui viennent? Donc, on l'a dit, la tournée avec Project Pitchfork, mais qui sera que dans un an?
Non, on commence en octobre parce qu'elle était en deux temps. Il y avait une première partie en mai et ensuite octobre. D'accord. Et du coup là, ce sera d'abord octobre et après le mois de mai. Et du coup là, c'est qu'en deux mois de confinement, moi j'ai eu le temps de faire beaucoup de musique, beaucoup de nouveaux morceaux. Il y a une collaboration qui vient de se finir aussi. Donc du coup, je pense que la prochaine étape c'est cette collaboration qui va sortir. Après, moi, j'ai une dizaine de nouveaux morceaux qui sont prêts maintenant. On va voir, essayer de mettre des paroles dessus, mettre de la guitare et je sais pas, on verra. Soit on va garder tout ça pour faire un album dans un an ou un an et demi, soit on va peut-être sortir un single entre temps. Voilà, on va voir, on va laisser reposer un petit peu tout ça, puis on va voir ce qu'il en est.
D'accord, et juste une dernière chose, donc d'après ce que j'ai cru comprendre, donc tu es lorrain.
C'est ça, ouais.
Donc autour de Metz. Ton gros marché, on va dire européen, c'est Allemagne, Suisse, Allemagne. Mmh. En France, ton entre guillemets ton genre musical, ça, t'as quelle réponse?
C'est vrai que nous, j'ai l'impression, que ce soit à tort ou à raison, je sais pas, mais qu'on est toujours un petit peu le cul entre deux chaises, comme trop metal pour l'électro, pour les gens de l'électro, et trop électro pour les gens du métal. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est l'impression que j'en ai, même si les choses sont en train de changer. On avait des dates Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en France, mais on avait des dates de prévues trois dates de prévues en avril en France, qui sont reportées à l'année prochaine. Donc voilà, on verra bien l'année prochaine quel accueil on aura en France.
Ok, mais effectivement, tu regardes quand même beaucoup à l'Est.
Oui, écoute, c'est que nous, comme je dis, on va là où on nous appelle aussi. Donc c'est qu'on a beaucoup de demandes en Allemagne, donc on va pas refuser. Et du coup, on a moins de demandes en France. Donc tout le temps qu'on est en Allemagne, on peut pas se concentrer non plus à chercher du booking en France, puisque comme tu vois, on avait normalement une trentaine de dates, je crois, ou une vingtaine en Allemagne. Ça prend aussi du temps à préparer tout ça en amont. Donc c'est vrai que voilà, pour la France, pour les boutiques en France, on n'a pas encore vraiment eu le temps de charger tout ça. Il y a des festivals qui nous avaient contactés, mais ça allait pas au niveau du planning puisqu'on était en tournée déjà à ce moment-là. Donc voilà, ça se refera certainement pour 2021,
Bon,
pour la fin 2021 en tout cas.
Espérons que cette journée promo permette de voilà
d'accélérer un petit peu les choses.
Absolument, ou de faire connaître le groupe dans l'Hexagone. Écoute, un grand merci d'avoir pris le temps de nous répondre, et puis tous mes vœux pour la suite.
Merci à toi, à très bientôt et bonne fin de confinement.
Merci, à bientôt.
À bientôt,
ciao,
ciao, salut.